L'émission Écho de la solidarité internationale, présentée par la Maison des Tiers-Mondes et de la solidarité internationale.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Claude Montange, du collectif Régulation et Transparence des Entreprises, et qui est aussi, bien sûr, une militante du CCFD Terre Solidaire. Et puis, deux personnes qui sont à la compagnie Minibus, Philippe Natariani et Véronique Guy. Alors, c'est la première fois qu'ils vont s'exprimer pour la compagnie Minibus. Et nous allons vous expliquer ce qu'est cette compagnie. Mais tout d'abord, je donne la parole à Claude Montange pour une manifestation qui va se passer le 24 avril.
Bonjour à tous. Donc, comme Madeleine vient de le préciser, je représente le collectif Régulation et Transparence des Entreprises. Et dans ce collectif, nous avons les associations ATTAC, CCFD Terre Solidaire, le collectif Éthique sur Étiquette, Oxfam France et le collectif Roosevelt. Donc, c'est un collectif qui travaille déjà depuis 2 ans sur Montpellier. Et je viens ici pour vous présenter une action que le collectif met en place le 24 avril 2018 sur la place de la Comédie à 17h30. Et c'est une action en commémoration de l'effondrement de l'usine textile du Rana Plaza au Bangladesh.
Plus de 1500 morts très nombreux blessés.
Oui, je voudrais revenir sur ce drame qui a été le plus grave accident survenu dans l'industrie du textile. Donc, 24 avril 2013, donc 5 ans, tout juste 5 ans, s'effondrait donc dans la banlieue de Dhaka au Bangladesh cet immeuble de 8 étages qui abritait 6 usines textiles. Et comme on vient de le rappeler, cet effondrement a causé la mort de 1138 ouvrières du textile et en a blessé 2000. Pourquoi on est concerné? Ces ouvrières, elles fabriquaient des vêtements pour des marques et des distributeurs bien connus, des distributeurs occidentaux. Si je vous dis Auchan, Benetton, Camailleux, Mango, Tex, etc., ça vous dit quelque chose. Donc nous, les consommateurs, nous sommes concernés. La société civile, après cet effondrement, elle s'est mobilisée, évidemment. Elle a fait pression sur les marques d'habillement, les distributeurs, les pouvoirs publics. Suite à cet effondrement, il y a une mobilisation importante à la fois des organisations syndicales, des organisations de défense des droits humains, locaux, internationaux. Pourquoi ? On voulait obtenir à la fois des pouvoirs publics et des multinationales au moins 2 points urgents, c'est-à-dire l'indemnisation des victimes et la sécurisation des usines de confection du pays. Qu'en est-il au bout de ces 5 années? Donc certes, il y a eu quelques avancées. Je vais reprendre un petit peu que certaines avancées. En ce qui concerne la sécurisation des usines, donc sous la pression des organisations syndicales, sous la pression publique, il y a eu la signature d'un accord. Il faut dire qu'il y a eu quand même 1 million de pétitionnaires pour obtenir la signature de cet accord. Signature d'un accord visant à sécuriser les usines de confection du pays. Cet accord, il devait couvrir 1600 usines textiles sur un total de 4500 usines dans le pays. Et il devait concerner 2 millions de travailleurs de l'industrie du textile. Et cet accord devait contraindre les multinationales à financer à la fois un système indépendant d'inspection des usines et à prévoir la mise en place de réparations nécessaires. Bon, qu'en est-il depuis 2013? 47 usines sur les 1600 couvertes par l'accord ont effectué 100% des réparations. Bon, c'est un début, vous me direz, mais on voit bien que ce n'est pas suffisant. En ce qui concerne l'indemnisation des victimes, donc, il y a eu aussi une mobilisation internationale importante pour mettre en place cette indemnisation. Et en janvier 2014, il y a eu un fonds qui a été lancé pour prévoir, alimenté par différents fonds, etc., pour prévoir cette indemnisation. En juin 2015, il y a eu toute une mobilisation qui a fait pression sur les multinationales. Et vous vous souvenez peut-être de la campagne visant Benetton, parce que les multinationales se lavaient les mains de l'alimentation de ce fonds, évidemment. Et Benetton, qui était un acheteur central, il refusait de contribuer à ce fonds d'indemnisation. Mais bon an, mal an, on est quand même arrivé à réunir 30 millions de dollars nécessaires à une indemnisation à minima. Là où c'est un peu plus problématique, c'est par rapport aux avancées sociales. Suite à cet effondrement, le gouvernement du Bangladesh avait été amené, sous la pression de la société civile internationale, il avait été amené à amender sa législation relative aux droits du travail. Et il avait promis, par exemple, un assouplissement par rapport à la création et l'exercice des syndicats. Or, 5 ans après, qu'est-ce qu'on constate ? Et on constate que le gouvernement n'a pas tenu ses promesses. Le combat pour le respect des droits humains, il demeure plus que jamais une réalité. Le gouvernement a repris ses actions de répression des mouvements sociaux, des travailleurs, le harcèlement des militants syndicaux et les entraves à la liberté d'organisation, de réunion, de négociation collective. C'est une pratique courante dans les usines Bangladesh. Donc on voit une liberté syndicale toujours entravée, des travailleurs qui sont redevenus les moins chers au monde. Et on voit des arrestations par les autorités bangladaises, des licenciements abusifs, des menaces et autres formes d'entrave à la liberté d'organisation. Donc on voit bien que par rapport aux avancées qu'on pouvait espérer par rapport aux droits syndicaux, aux droits humains, etc., eh bien, on n'y est pas du tout. Donc 5 ans après, il faut continuer à combattre. Et c'est pour cela que le collectif 34, Régulation et Transparence des entreprises, organise cette action de rue le 24 avril à 17h30. Venez nous rejoindre devant le syndicat d'initiative, parce que c'est vraiment en mémoire de ces victimes du Rana Plaza qu'il faut rester mobilisé.
Et rappeler les droits au travail.
Oui, et rappeler les droits au travail. Je voudrais quand même terminer par une petite avancée qui a été obtenue en France, qui a été obtenue par la mobilisation citoyenne, 4 ans de navette parlementaire, etc., 4 ans de combat. C'est l'adoption de la loi le 21 février 2017 sur le devoir de vigilance des sociétés mères et entreprises donneuses d'ordre. Bon, cette loi, je ne vais pas rentrer dans le détail, ce n'est pas l'objet ici, mais elle exige quand même que les entreprises publient et mettent en œuvre un plan de vigilance pour identifier et prévenir les atteintes aux droits humains et à l'environnement causées par toutes ces activités multinationales et leurs filiales et sous-traitants. Cette loi, elle doit essaimer au niveau européen et au niveau international, et actuellement, au niveau de l'ONU, il y a un projet de traité contraignant sur les multinationales qui est en discussion et qu'il faudra qu'on continue à suivre, et pour lequel le collectif 34, Régulation et Transparence des entreprises, continuera à se battre et à mobiliser et à vous informer.
Bien sûr, et nous pensons d'ailleurs suivre aussi toute cette information et la transmettre à nos auditeurs. Alors, merci Claude. Maintenant, nous allons écouter une musique apportée par la compagnie Minibus. Alors, je rappelle quand même, rendez-vous mardi 24 avril à 17h30 à la Place de la Comédie.
Devant le syndicat d'initiative, exactement.
De la brocolivence, yeah, brocoli.
Alors, que s'agit-il de musique que vous avez déjà...
Oui, tout à fait. Bonjour, bonjour à tous. Eh bien oui, c'est une musique qui a été composée par Monsieur Macky dans le cadre de la compagnie Minibus. Donc la compagnie Minibus est une compagnie de théâtre au départ. Notre projet, c'est l'éducation pour la culture. Donc effectivement, on reprend, nous, des grands thèmes de sensibilisation de l'éducation nationale. Et puis on travaille sur des sensibilisations, des mises en place de formations pour les jeunes et les moins jeunes. Notre projet sur l'alimentation a démarré il y a 3 ans, mais on a d'autres programmes, hein, sécurité routière, gestes de premier secours, sensibilisation à la citoyenneté et la solidarité internationale, bien sûr, pour les enfants. Et dans ce cadre-là, on a mis en place, nous, avec Véronique Guy, un projet autour d'une controverse théâtralisée pour les gens de Montpellier. Donc là, on sera en partenariat avec Alternatiba et la Maison du Tiers-Monde le 24 mars à 18h.
Il faut dire que ça se passe dans la semaine de l'environnement.
Tout à fait.
Du 23 au 29 avril.
Voilà,
exactement,
c'est ça.
Exactement, c'est dans ce cadre-là. Voilà. Véronique, tu peux nous parler un petit peu, toi, du sketch que tu as mis en place autour
Ah oui.
des...
Ouais, déjà, le titre de la controverse théâtralisée donc, qui va être jouée au Dôme. C'est donc la transition écologique, c'est pas facile tous les jours. C'est vrai que dans nos gestes quotidiens, on est souvent en contradiction avec des idéaux, des idées, en tout cas des pensées qu'on a sur l'écologie. Donc les thèmes qu'on va aborder, qu'on a traités, c'est entre autres la nourriture. Donc la polémique qui se pose, c'est est-ce que, par exemple, dans le cas de tomates là, qui vont bientôt arriver, est-ce qu'on achète des tomates qui viennent d'Espagne, qui sont cultivées dans des conditions déplorables pour l'environnement? Est-ce qu'on attend des tomates de notre propre culture ou on attend le tomate cultivé au niveau local où on privilégie aussi le commerce équitable? Donc il y a toutes ces questions qui se posent. Alors, est-ce qu'on attend? Est-ce qu'on est un peu capricieux et on ne veut pas attendre? Donc, il y a toutes ces questions qui se posent et qu'on va être amené à jouer lors de scénettes théâtralisées au Dôme.
Alors, dans ce cadre-là, on a d'autres controverses hein, qui vont être proposées. On a aussi se déplacer, s'habiller, recycler. Le but du jeu, c'est de vraiment...
L'énergie aussi.
L'énergie, tout à fait. Le but, vraiment, c'est de questionner un petit peu les gens qui viendront et par ces petites scènes de théâtre, un petit peu les... Alors, de théâtre, on parle de sketch. Hein. On n'est pas sur des scènes en 3 actes, hein. On est sur des petites scénettes où on est juste là pour sensibiliser un peu les gens et leur demander de vouloir répondre à nos idées. Et ça peut se faire sous forme de théâtre forum, un peu. Hein. Ils peuvent venir un peu sur scène, défendre leurs idées. Si on arrive tous à se positionner par rapport aux choses de notre vie, on peut effectivement avoir un changement sur nos comportements. Et notre travail, ça va être déjà de sensibiliser. Et puis après, si on peut changer les comportements, c'est bien.
Alors pour cela, vous avez le concours d'étudiants d'Agropolis?
Tout à fait, les concours d'Agropolis, Alternatiba aussi, des bénévoles. Alors on sera tous bénévoles sur cette action, puisque nous, on a considéré que sur une action de sensibilisation comme ça, il fallait s'engager et vraiment être bénévole dans ce projet. Le Dôme nous prête le lieu, Alternatiba nous prête un peu de logistique, la Maison du Tiers-Monde nous fait une bonne communication aussi par rapport à ça. Et c'est vrai que la solidarité internationale, elle va en bout de chaîne, mais elle commence aussi par ça, par nos propres comportements. Hein. Claude nous l'a montré, hein, c'est en changeant nos façons de faire ici, qu'on pourra améliorer les choses là-bas.
Oui, c'est la société civile qui fera des choses. Hein. Faut pas attendre grand-chose des politiques. Hein. Ça, c'est une chose... Ça devient de plus en plus évident, hein, je crois. Hein.
Donc, vous pensez attirer un public de quelle sorte?
Alors, de tout niveau, puisque... on a cette controverse là qu'on va présenter dans cette semaine-là pour les adultes au Bar-le-Dôme, mais on maintient cette action avec la MDA, la Maison des Ados, le lendemain, le 25, de 14h à 17h pour les adolescents de Montpellier. Hein, donc on aura à peu près les mêmes sketchs qui seront présentés, mais là, ce sera plus adressé aux adolescents de Montpellier, à la maison du tiers, à la maison pardon, des adolescents.
Il faut préciser que c'est les jeunes qui écriront, qui seront amenés à écrire leurs petites scénettes ou improviser sans écrire, etc. Mais c'est eux qui fabriqueront vraiment leurs petites scénettes.
C'est eux l'avenir, en fait.
Oui, alors vous leur proposez d'abord le thème.
Oui.
Et ensuite, ils écrivent eux-mêmes leurs scénettes.
Ils peuvent écrire ou ils peuvent improviser.
On peut les sensibiliser, dire voilà, toi, sur quoi tu es sensible, au fait de te déplacer, au fait de manger, au fait de jouer. Donc, les sensibiliser déjà dans un premier temps et après les amener.
Dans cette maison des adolescents, ils viennent volontairement ou est-ce que c'est organisé?
Non. Alors, c'est vraiment volontaire. Hein. La maison des ados est ouverte à ce moment-là sur cette controverse. Ils viennent sur inscription, c'est complètement gratuit. C'est pas dans le cadre de leur programmation habituelle à la maison des ados, mais c'est une porte ouverte à une controverse pour ouvrir un peu les esprits et discuter.
Et qui vient à cette maison des ados? Quels sont les adolescents?
Alors
qui
les
sont
ados,
accueillis?
C'est 12-18 ans en règle générale, mais ça peut aller jusqu'à 25 ans pour certains projets. La maison des ados, elle a comme principe d'accueillir tous les jeunes qui ont besoin de parler, de discuter, puisqu'il y a des psychologues, des assistantes sociales. Et le but du jeu, c'était d'ouvrir une maison. Alors là, j'en parle un peu comme ça, mais c'est pas Monsieur Chichignan qui est le directeur. Hein. On vient de finir avec eux le Pocket Film, donc le festival du film Pocket, où chaque jeune a la possibilité de présenter un petit film qu'il a filmé avec son portable autour d'un sujet. Alors cette année, c'était Planète 2040. Hein, comment vous voyez en 2040? Donc chaque jeune a eu la possibilité de réaliser un petit film et ils sont venus tous le présenter à Pierre Vive dans le cadre du festival Pocket Film dans l'amphithéâtre de Pierre Vive.
Et donc dans ces petits films, il y a été beaucoup question d'environnement justement. C'était quand même un domaine essentiel dans le sujet des films.
Ouais.
Donc, ils ont été touchés.
Ah oui, tout à fait. Bah, de toute façon, eux, ils voient bien que c'est leur avenir. Hein. quand ils voient les dégradations sur l'environnement, ils le voient directement. Après, notre travail, un peu pédagogue, là, c'est de faire le lien entre ce qui se passe ici et là-bas et ailleurs. Puisque c'est pas forcément évident que quand on va acheter un t-shirt en France à 90 euros pour un jeune qui reçoit un cadeau, ouais, j'ai un beau t-shirt, ben, d'où il vient, dans quelles conditions il a été fait, par qui, et peut-être par des femmes qui ont subi des difficultés à travailler là-bas, en Inde, hein, par exemple, pour revenir sur le sujet de Claude, ben, c'est aussi une discussion qui peut être importante pour eux, c'est-à-dire...
De prendre conscience des
choses. C'est tout le travail qu'a fait le collectif de l'éthique sur l'étiquette, justement.
Voilà, ouais.
Ça a commencé par les jeans, et puis ensuite les chaussures de sport,
tout à fait.
Pour faire réfléchir justement les jeunes à leur consommation.
Tout ce qui se cache derrière. Ouais.
Ouais, mais tout est comme ça.
Des petites vidéos qui ont été tournées par des jeunes, notamment du CCFD. La petite vidéo, c'est l'étiquette me gratte.
Ah.
Quand un jeune achète un t-shirt, en fonction de... Il regarde son étiquette, l'étiquette le gratte ou le gratte pas en fonction de ce qu'il dit sur l'étiquette. Et c'est vrai qu'ils sont assez sensibles à des petites vidéos, à ce petit côté humoristique. Pourquoi mon étiquette me gratte? Ah ben, je découvre que le t-shirt a été fait dans telles conditions, les ouvrières du Bangladesh ont été payées 3 francs 6 sous, etc. Donc c'est vrai qu'ils sont sensibles à ce...
Et puis il y a le côté santé aussi, parce qu'ils ont des produits chimiques directement en contact.
Ben oui, l'environnement, c'est tout ça aussi, l'environnement social... Et ben, notre objectif, c'est vraiment pas de faire la morale aux gens et aux enfants, hein, en règle générale, mais plutôt d'éveiller les consciences et d'amener des discussions, parce que eux-mêmes, des fois, ils peuvent avoir des solutions sur des projets.
Des questions déjà, s'ils en ont.
Des questions, voilà. Et vraiment, nous, sur ce projet, on est là pour... pour ouvrir les têtes. Voilà. Hein. Et, d'ailleurs, il y a un collectif avec nous qui s'appelle L'Ouvre-Tête à l'université.
Oui. Hein, qui travaille là-dessus. Qui est là-dessus. Un des acteurs de la semaine de l'environnement avec Alternatiba.
Tout à fait, voilà, c'est ça.
Et le réseau des semeurs de jardins qu'il ne faut pas oublier.
Tout à fait, voilà. Aussi, ouais. Voilà. Mais c'est important. Voilà. Et donc, nous, c'est un peu la partie culturelle qu'on pouvait apporter à ça. Par cette controverse théâtralisée. Après, on cherche d'autres idées. S'il y a des partenaires, on est prêt à les écouter pour monter des projets, des collectifs avec eux. Voilà.
Ah oui, on est toujours... on ne sera jamais assez. Hein. Je crois que là, il y a un gros chantier en perspective.
Ouais.
Alors, donc, on peut vous joindre où pour vous demander votre participation?
Alors, on peut me joindre sur un mail, hein, si vous voulez, hein, cie.minibus@yahoo.fr. Y a un site aussi, hein, compagnieminibus.fr, si vous voulez. Et puis, je peux donner mon portable à l'antenne, hein, 06 24 76 06 25. S'il y a des gens qui ont besoin d'un petit coup de main, voilà, on est prêt. À les aider sur des dispositifs, des choses comme ça. Voilà.
Et pour Claude, où peut-on vous joindre?
Alors, je vais donner mon mail aussi, claude.montange@orange.fr.
Alors, Claude, vous vouliez, je crois, signaler la venue d'une personne très importante à Paris.
Oui, tout à fait.
Ce lundi. Hein,
ce lundi, 16. Hein, le 16 avril à Paris. Donc, c'est le collectif Éthique sur étiquette qui aura la grande chance d'accueillir Kalpona Akhtar, qui est en fait une personne qui nous vient du Bangladesh, qui est la directrice exécutive du Bangladesh Center for Worker Solidarity. Mon anglais est absolument nul, veuillez m'en excuser. Cette organisation est l'une des plus grandes organisations bangladaises de défense des droits humains au travail. Cette personne, elle a commencé à travailler dans le textile dès l'âge de 12 ans. Et c'était pour un salaire de $6 par mois. Adolescente, elle a été licenciée, blacklistée, parce que déjà adolescente, elle avait l'idée de créer un syndicat dans son usine. Elle est devenue internationalement connue comme défenseuse des droits des travailleurs de l'industrie du textile. Et cette personne arrive à Paris, elle sera reçue au collectif Éthique sur étiquette le 16 avril. Et je voulais lui rendre un hommage au cours de cette émission parce que ce sont des personnes comme ça dont on a besoin, notamment pour la défense des droits humains au travail.
Oui, bravo.
Je dois ajouter qu'elle a reçu en 2016 le prestigieux Alison DeForge Award for Extraordinary Activism. Donc c'est vraiment une activiste.
Oui, c'est vraiment quelqu'un quelqu'un qui fait un travail formidable dans son pays.
Et c'est voilà. L'ONG Human Rights Watch qui l'a couronné.
Qui l'a couronné, tout à fait.
Je vois que tout le monde maîtrise bien l'anglais. Là.
Oui, donc elle sera reçue en présence de Danielle Auroi, hein, qui est une ancienne députée européenne et sur laquelle on s'est beaucoup, beaucoup appuyé sur ce projet de loi sur le devoir de vigilance des entreprises donneuses d'ordre vis-à-vis de leurs filiales. Et donc, Danielle Auroi la recevra à Paris au collectif Éthique sur étiquette. Voilà. Donc, une grande dame. Je ne sais pas si les médias en parleront, mais nous en parlons aujourd'hui à l'antenne.
C'est important. Ouais.
Tout à fait. Ouais. Je voulais signaler aussi que vous avez fait paraître un communiqué que tout le monde peut lire dans la Gazette de cette semaine.
Merci. On espère avoir du monde hein, sur la place de la Comédie
le
24 avril hein, à 17h30.
Très bien, ben, c'est super. Ben, moi je voulais juste rajouter un mot, on est partenaire aussi de la métropole sur le projet Opération Brocoli à l'Écolothèque. On sera le 16 et le 17 mai
hein, oui.
Sur le projet...
Le
15 et 16 mai, pardon, excuse-moi Véronique.
Hein. Opération Brocoli, donc sur l'alimentation, qui parle de l'alimentation.
Voilà, ça. Et entre autres la sensibilisation au gaspillage alimentaire avec la métropole et la ville de Montpellier pour à peu près 600 élèves.
Voilà. Ah oui, en effet.
Donc des élèves, ça concerne les primaires jusqu'au collège. Hein.
Oui, c'est ça.
Voilà. Eh ben, bien, merci à vous tous.
Merci.
Je continue par le calendrier. parce qu'il ne faut pas oublier que ce jour même, lundi 16 avril, aujourd'hui, à 13h, au tribunal du Grande Instance de Montpellier, il y a le rassemblement en soutien à Falicou, un jeune mineur résidant au foyer Claparet d'Abézier, où il est en charge de l'aide à l'enfance. Il a été arrêté par la police des frontières, mis en détention à la maison d'arrêt de Villeneuve-les-Maguelones, ce qui met en péril son avenir, puisqu'il est à 2 mois de son examen. Il prépare un CAP peinture et application de revêtement. Donc, nous vous demandons de venir aujourd'hui à 13h devant le tribunal, même à 14h, je pense, c'est 14h plutôt que 13h.
C'est lundi.
Oui, c'est ce lundi. Donc, il est soutenu par toute sa communauté éducative et le collectif bitérois d'aide aux migrants. Et puis, je signale que mardi 17 avril, de 20h à 23h à l'espace Gare, 50 avenue de la Gare à Castries, c'est un ciné citoyen, Les migrants ne savent pas nager, et un débat avec SOS Méditerranée s'est organisé par l'atelier citoyen de Castries. Je rappelle aussi que le samedi 21 avril et le dimanche 22 avril à Carcassonne aura lieu la rencontre régionale de l'objection de croissance, ce qu'est le travail et ce qu'il pourrait être, en présence de Didier Arpagès, qui est l'auteur de « Mourir au travail plutôt crever ». Un livre qui est apparu en 2017, édition Le Passager clandestin.
Ouais, ça c'est dit, oui.
Avec une préface de Serge Latouche. On peut s'y inscrire donc auprès d'Adéroc, Palière, 30 140 Toiras, et vous pouvez trouver le programme détaillé sur www.decroissance-poc.org. Et puis je termine aussi en disant qu'il y aura une marche concernant justement la défense des migrants qui partira ce... C'est vrai que c'est déjà passé. Ce qui est important, c'est une pétition, non à l'emprisonnement des migrants mineurs ou jeunes mineurs, jeunes majeurs dans l'Hérault. Et vous pouvez trouver cette pétition sur le site, bien sûr, du réseau Éducation sans frontières, https://chn.ge/2v354qu. Sa pétition s'inscrit dans le cadre des états généraux pour les migrations, dont nous vous parlerons lundi prochain. À bientôt, chers auditeurs.
Merci, Madeleine. Merci à toute l'équipe, hein. Bravo aux techniciens, ils sont forts.
Au revoir.